Et bonjour à tous, c'est 14h, on est dans le tarot de la cité, on a perdu le générique car nous avons changé de studio. Voilà, bonjour Isabelle.
Bonjour.
T'es notre invitée aujourd'hui.
Tout à fait.
Et donc nous sommes, Alain, bonjour.
Bonjour Florie.
Bonjour, ça y est,
on arrive,
j'étais dans les étoiles avec cette musique. Arnaud, salut, t'es à la technique. Et donc on a changé de studio, on est dans la rue de Trécloître. Pourquoi ? Parce qu'il y a une semaine d'ouverture exceptionnelle. Et il se passe plein d'événements, plein de choses, c'est ça ?
Tout à fait.
Et donc, on t'a appelé, parce que toi, Isabelle, tu fais partie des artisans de la rue, on peut dire ça ?
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce que tu veux nous dire un peu ?
Et ben, dans la rue Trécloître, il y a 3 ou 4 ateliers, il y a 2 verriers, il y a 3 céramistes, il y a une tapissière. Donc c'est vraiment la rue de l'artisanat à Grenoble en ce moment. Mmh. Et du coup, dans le cadre d'ouverture exceptionnelle,
on est là.
T'as trouvé ça rigolo d'inviter un artisan de la rue.
Oui. Et on peut même avoir du public qui passe les portes. C'est complètement curieux. Bonjour. Donc tu fais de la poterie.
Oui, je suis céramiste.
Céramiste.
Ouais, ça fait 10 ans que je suis installée rue Trécloître.
Ouais. Et tu aimes faire ?
Donc moi, je suis tourneuse, donc je fais beaucoup de céramique utilitaire, et j'ai en grès ou en porcelaine. Et j'ai aussi une patte plus artistique où je fais des bas-reliefs en porcelaine. Donc ça, c'est de la décoration murale. Et mon inspiration, pour l'instant, c'est plutôt l'écume ou le bord de mer et quand les vagues s'écrasent sur des rochers, et je fais tout ça en tournant, et ça fait des tableaux en volume au tableau, accrochés au mur, quoi.
Ok. Bon, ben, on ira voir juste après.
Avec plaisir.
Ah oui, trop bien. Alain, est-ce que tout va bien pour toi ?
Ah, parfaitement. C'est toujours une grande émotion de commencer une émission d'enquête, de quête de l'utopie, puisque c'est notre thème de l'année. Et qui renouvelle la quête qui était précédente, qui était la croyance. Et on va voir comment ces croyances peuvent être aussi des utopies.
Voilà, super. On entre donc dans le jeu qui s'appelle la Cité des Interdits.
Ouais.
Voilà. Et on dit merci à Jean-François Esseboul, le médecin de la rue Trécloître, qui nous a offert cette musique de départ.
Ouais.
Et qu'on, aura,
très belle.
Et qu'on aura à la fin. Voilà. Donc, tu disais de ce médecin qu'il était connu de tout le monde. C'est rigolo.
Bah non, mais il y a beaucoup de queues devant son cabinet régulièrement. C'est pour ça que je dis qu'il doit connaître beaucoup de monde dans le quartier.
Voilà. Il fait beaucoup de musique. Il aime jouer dans les EHPAD. On a appris tout ça déjà. Bien. Allez, passons au jeu. On ouvre la première carte que je vais poster sur le podcast si vous voulez voir l'image en même temps.
Donc, voilà. N'importe laquelle ou
la
10 ?
La 10. J'ai cru qu'on avait de la réverb, c'était bien.
Oui, mais il y en a un peu.
Ah, chouette.
Oui.
Et donc, je dois décrire la carte, comme si j'ai bien suivi.
Ouais, pour nos oreilles qui ont envie de voir.
Alors, elle est plutôt dans les bleus. Tout en haut à gauche, il y a un petit coléoptère ou je ne sais pas quoi. Il y a comme une citrouille un peu fantôme et puis un autre bonhomme que je dirais bien un peu fantôme devant 2 skylines qui sont des skylines urbaines, une qui est dans les noirs et une qui est dans les verts, qui est au-dessus de... comme s'il y avait une ville au-dessus de la ville. Et en bas, c'est tout bleu comme la mer et on voit à travers un des 2 personnages... un peu grotesque, un peu fantomesque, un peu... et qui a aussi un des 2, comme Superman peut avoir son logo sur la poitrine, et bien il y a ce fameux coléoptère où...
C'est une punaise.
Ah, c'est une punaise, voilà.
Et la punaise appartient à l'enfance.
D'accord.
Ouais, c'est pas mal, Superman dans l'enfance. T'en as eu, toi ?
Des héros imaginaires dans ma tête. Oui, mais pas Superman.
Ok.
Et voilà.
Alors, ces 2 personnages sont très typés de par la taille, de par l'expression. Qu'est-ce que tu peux dire de ces deux personnages et ben alors, en contraste l'un de l'autre?
Il y a le petit devant qui a une bouche qui sourit, en tout cas, enfin, qui a quelque chose qui ressemble à une bouche. Mais je ne sais pas si c'est parce que c'est Halloween bientôt, mais je trouve qu'il a un petit côté citrouille fantôme, hein,
oui, c'est
même
ça.
S'il est en blanc. Mais il a l'air plutôt joyeux. Et l'autre, il a des jambières, on dirait. Il n'a pas vraiment de bras.
C'est ça.
Et il n'a pas de bouche. Donc, en fait, on détermine moins bien son expression, s'il est...
voire même son identité, c'est ça ?
Content ou pas content. Alors, c'est des fantômes, pour moi. Donc, on ne peut pas dire si c'est des hommes ou des femmes, en tout cas.
C'est ça. Et tout de même, ils sont sur un fond commun. Ils ne sont pas séparés du fond.
Non, ils ont l'air ensemble. Et puis, il y en a un qui... Ils sont un peu transparents,
ah oui,
à travers les yeux. Ou celui qui est un peu citrouille. C'est pour ça qu'il me fait penser à une citrouille, parce qu'il est découpé comme quand on découpe les citrouilles et qu'on voit la lumière à travers. Donc là, on voit en bas, on dirait... comme si c'était une rivière, comme à Lewiston, ou je sais pas, on dirait une rivière avec la skyline d'une ville avec plein de gratte-ciel derrière. Et en fait, à travers eux, on voit le bleu de l'eau.
C'est une carte qui te semble parler de quelle énigme, si énigme il y a. Est-ce que tu sens une énigme ?
Je sais, peut-être parce que c'est très américain, la skyline.
Oui.
Pour moi, ça fait des glissements d'Halloween, comme si...
C'est ça.
L'énigme du fantôme, un peu.
Peut-être.
C'est ça.
Et dans la rue Trécloite, est-ce qu'on en voit beaucoup ? Non, je rigole.
Alors, dans la rue Trécloite, ils fêtent Halloween. Il y a les enfants qui font souvent un mercredi festif, tout déguisé... avec la maison des habitants ou avec leur périscolaire, je ne sais pas. Mais...
Ah, j'aime bien l'idée de déguisement, parce qu'elle est ici aussi.
Ben oui, ouais. Ça me fait penser à des déguisements, en fait. Je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment des...
Ce n'est pas des réalités, c'est des personnages,
oui,
inventés.
Tout à fait. Enfin, ça ressemble à ça. Ils font pas très réel.
Mais ils ont pas beaucoup de bras, ils ont des jambes. On se demande pourquoi. Il y en a un qui a pas de jambes d'ailleurs.
Oui, bah celui qui fait citrouille, j'avais même pas noté qu'il avait pas de bras, mais.
Pas de jambes.
Non, bah il y a un corps de citrouille.
Bon, donc on peut dire que il y a quelque chose de festif ici.
Ah ben oui, ça me fait vraiment penser à Halloween, à une sortie au Lampion.
Ah oui, c'est ça l'idée de nuit.
Oui.
Ah très bien, très bien.
On nous a raconté tellement de choses sur cette carte qu'on a même du mal à entendre les nouveautés.
C'est vrai.
Ah, c'est joli. Très bien.
On peut regarder celle d'après ?
Oui, bonne idée.
Allez, là, c'est la numéro 22.
Ouais.
Alors, je vais la chercher. Tu vois ?
Toutes différentes,
c'est vrai.
Donc elle est dans les marrons et les jaunes. Il y a deux cartes en fait en une, avec les mêmes dessins, mais pas du tout coloriés de la même façon. Donc il y a une femme enceinte en tout cas, ça c'est sûr. On dirait qu'elle est hyper pressée et qu'elle tire un sac à main serré, enfin qu'elle a le bras de quelqu'un qui marche vite, et qui a une tête un peu de bélier, ou, enfin le haut est... a l'air plus animal que humain.
Oui.
Ensuite, il y a des gros frelons, abeilles,
oui,
guêpes, je ne sais, oui, pas, qui sont stylisés, mais qui sont assez grands. Ils sont quasi aussi grands que la femme enceinte.
Que le personnage,
oui,
du devant.
Et qui sont en fond. Et ils ont un cœur sur le dos, dans un cas jaune.
C'est ça.
Et la femme enceinte est en blanc, et dans l'autre cas, en rose.
C'est ça.
Et la femme enceinte est toute noire. Et la tête de bélier est marron foncé au-dessus du corps noir et beige au-dessus du corps blanc.
C'est ça. Et qu'est-ce que ça t'évoque, toi, qui es dans le bas-relief? Qu'est-ce que ça t'évoque, cette silhouette quasi égyptienne?
Oui, elle est toute de profil, en fait.
Oui.
Ben, ça m'évoque quelqu'un qui marche très vite, parce qu'on voit un coude qui est vraiment à l'horizontale.
Oui.
Comme quand les gens ils font la marche rapide. Elle a vraiment la position du coude très rigolote. Et c'est vrai qu'elle est complètement sur le côté, comme une représentation égyptienne. Après, la tête, ça fait vraiment tête de bélier, un peu stylisée avec avec un museau triangle stylisé, mais des cornes quand même.
Oui.
Voilà. Et puis, il y a aussi sur un des oiseaux derrière, on voit une grue. Enfin, il y a le seul truc commun qui est aux deux cartes, quasi.
C'est les mêmes.
C'est un rond jaune qui est... Et c'est une grue ou un oiseau qui vole
dedans, ouais,
dedans.
Géométrique.
Voilà. Et en fait, l'aile coupe la tête, c'est ça? Parce que en fait, il y a une aile qui coupe un peu la tête de bélier, mais en première intention, on dirait surtout un col de chemise de quelqu'un qui travaille à la City, quoi.
Oui.
Plein de.
Oui.
D'amidon dessus.
Ah, tu trouves qu'il y a... Ah oui. Ce que tu viens de dire, ça me fait penser à la confusion des signes. Est-ce que c'est ça que tu veux dire ou...
C'est quoi la confusion des signes?
C'est-à-dire qu'un signe dit quelque chose, et puis il peut aussi dire autre chose parce qu'il est confronté au signe d'à côté, par exemple. Comme la tête, le triangle et l'aile.
Ouais.
Je sais pas, hein, je fais que essayer de raconter.
Ouais, je...
Et puis... Mais
c'est que j'ai mis du temps à voir que c'était l'aile, en fait, en prolongation.
C'est ça, voilà.
J'ai mis du temps à...
Oui.
En fait, la tête de bélier, elle est posée au-dessus
de cette aile.
De cette aile. C'est pas la tête de... Il y a un effet de superposition et on sait pas vraiment comment elle se tient, la femme enceinte qui marche là.
Donc on peut dire qu'il y a un monde animal et un monde humain. Le monde humain étant représenté par la femme et le fait qu'elle soit enceinte.
Oui.
C'est ça?
Tout à fait. Et puis un monde d'insectes.
Et un monde d'insectes, mais des insectes qui sont vampirisants presque. Parce que extrêmement grands.
Oui.
On ne rencontre pas souvent des oiseaux ou des insectes qui occupent
cette taille.
De la tête à la taille. Donc il y a quelque chose d'extravagant, non, dans cette image.
Ah ben, sur les proportions, oui. Après, comme les couleurs sont un peu douces, ça a pas, il n'y a pas un côté qui fait peur sur les. En plus, les insectes s'éloignent tous de nous, en fait. Ils sont tous dos à nous et ils volent vers l'intérieur de l'image. Ils viennent pas vers nous.
Ils ont pas l'air de l'agresser, tu veux dire,
non,
c'est ça?
Pas du tout. Ils s'éloignent d'elle, en fait.
Oui.
Ils sont vraiment dans un deuxième plan derrière. Donc,
bon, après lui avoir coupé la tête, hop.
Ouais, voilà.
Attention, nous avons une visite. Ouais, mais d'ailleurs, ça va être l'heure de dire qu'on est sur Radio Campus Grenoble et on va mettre la musique du milieu.
Il y a quelque chose qui m'intrigue.
Ah, on ne va pas faire ça.
Dans cette image, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est le fait que la femme annonce un destin par le fait qu'elle est enceinte. Est-ce qu'on peut dire ça?
Ah, ben j'imagine. Je n'ai pas réfléchi dans ce sens, mais effectivement, vu que c'est des cartes de tarot et qu'il faut peut-être un peu réfléchir à l'après, vu que ça amène des messages, effectivement... Le truc le plus simple qu'on y voit, c'est que c'est une femme enceinte. Donc, à l'arrière, ben, là, il y a 5 ou 6 insectes qui volent et il n'y a qu'une femme enceinte. Mais plus tard, il y aura au moins une femme enceinte et un enfant, quoi.
C'est ça. Et ces abeilles, elles portent des signes dont un qui est très, très lisible, qui est à la hauteur de la tête. C'est un cœur
Oui.
Une fois orange, une fois je sais pas quoi.
Rose, ouais.
Et est-ce que cette image est une idée d'alliance, est une idée de connivence, est une idée de romanesque? Est-ce que ça te fait penser à quelque chose qui peut exister sous la forme d'une narration?
Ouais. Je pense, pour moi, c'est plus romanesque qu'autre chose pour montrer que ils sont gentils.
Oui, je comprends bien.
Et
ils nous montrent qu'ils sont gentils entre eux.
Entre eux, puis même par rapport à la femme enceinte.
Oui, c'est ça.
Ils sont un peu, ils sont vraiment pas dans le même plan en fait.
À la fois dans l'image et à la fois...
Dans la suite, si on imagine le temps 4 mois après,
oui.
On imagine qu'ils seront beaucoup plus petits et plus loin, vu le sens où ils vont. Et,
oui.
Et la femme enceinte, elle sera devant, peut-être avec l'espèce de tête de souris avec des cornes de bélier enlevées de sa tête et un bébé, mais... J'ai l'impression qu'elles se séparent, les images.
C'est ça, oui. Oui. Elles ont une dynamique individuelle, mais elles sont réunies.
Mm.
C'est ça ce que tu essayes de dire, peut-être.
Oui.
Ah, c'est bien. Bah, c'est super. Hein.
Entre la femme et les
Est-ce que le procédé narratif qui est ici te fait penser à quelque chose que tu as déjà vu précédemment avec les deux personnages? Est-ce qu'il y a un lien ou il n'y en a pas du tout?
Alors, j'y connais rien en tarot, dans les jeux de tarot, les atouts, souvent, il y a le haut et le bas, mais c'est retourné. Et là, elles sont dans le même sens.
Oui.
Mais il y a un côté noir et blanc, deux faces. Ça fait très jeu de cartes, pour le coup.
Mm.
Sauf que le sens n'est pas l'habituel des jeux de cartes.
Mm.
Il me semble, mais j'y connais pas grand-chose en cartes.
Ma question était de dire, est-ce que la narration qui est ici... peut avoir une équivalence de la narration précédente, non pas en thème, mais en idée narrative.
Que ma carte précédente ?
Oui.
Alors, je dirais que c'est...
C'est-à-dire, la première était festive et racontait une histoire festive, c'est ça ?
dans le temps, je trouve que la première carte que j'ai vue, comme il y a la skyline avec des gratte-ciel et tout ça, je trouve qu'elle se met dans un temps très moderne. Et en plus, comme ça me fait penser à Halloween, c'est très époque moderne.
Et puis maintenant aussi.
Maintenant, quoi. Alors que l'autre, la tête de bélier, elle est intemporelle, en fait. Je ne peux pas...
c'est ça.
On dirait la femme enceinte qui est vraiment de profil, ça fait égyptien... Les insectes, est-ce qu'il y avait d'autres mondes sur Terre? Est-ce que, en fait, elle a pas du tout de datation en fait pour moi par rapport à l'autre.
Oui,
je suis beaucoup plus proche de la première que de la deuxième. C'est une histoire racontée, très narratif. La première fait beaucoup plus moderne pour moi.
C'est ça, super.
Donc on oublie l'histoire de la tête coupée au début. Non, pardon. On va écouter la musique.
Ouais, tu crois qu'elle a la tête autrement.
À tout de suite.
Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux. Venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante. Et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. rien, plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, plutôt plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux, ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens dans la panique ont déclaré l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages on lisait la détresse. Hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné. Car il ne reste que quelques minutes à la vie, plutôt plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité.
Alors, nous sommes évidemment de retour et c'est un festival où on va voir du public. Alors, la porte est ouverte et nous, on va ouvrir la carte en même temps, 58, si tu veux bien.
Waouh.
Bienvenue à
Il
tous.
Il semble que ce soit une surprise.
Et avec bonne complètement. Écoute.
Alors, elle n'a rien à voir avec les deux premières. Alors, elle est vraiment très, très, très différente. Elle est en noir et blanc, déjà. Elle... Alors, il faut que je dise d'autres choses,
ah
parce que noir et blanc, ça ne va pas suffire. Il y a des écritures, on dirait quasi un truc gravé, enfin, à l'encre de Chine. Alors, il y a un grand personnage... devant, qui a une jambe qui est coupée, qui a l'air d'avoir une épée. Au début, on peut imaginer que c'est un peu asiatique, le style, mais sa tête, c'est plutôt un peu carré, enfin, on dirait quasi une tête de mort stylisée. Et puis, on dirait qu'il lui manque un peu des bouts, en fait. Il n'a pas de clavicule. Enfin, du coup, on ne sait pas trop si c'est un personnage entier. Donc, il y a des petites écritures chinoises. Il y a d'autres têtes qui ressemblent à la tête du grand personnage qui prend quand même toute la carte. Et au fond, on voit comme une rivière, un petit bout de forêt. On voit une petite montagne au loin, peut-être des nuages. Elle a beaucoup de profondeur, cette carte. On devine des bateaux au très loin. Et il y a aussi encore des insectes, mais qui, là, pour le coup, ne font pas du tout vrai. On dirait des insectes, instruments de musique. Je ne sais pas pourquoi je dis instruments de musique.
Peut-être pour l'effet flûte.
Ouais. Et ça, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui tournent un peu autour de ce personnage principal.
Ouais.
Elle est vraiment très différente des autres, quoi.
Ah, vraiment, oui. C'est vrai. Mais aussi, j'ai l'impression qu'il y a un processus narratif.
Ah ben...
Ou alors, je m'aventure à ta place.
Ben
Parce que la répétition du visage par trois fois, voire par quatre fois, c'est tout de même une énigme étrange. Qu'est-ce que c'est que l'écho de ces visages qui se répètent? Qu'est-ce que c'est que cette harmonie qui se déroule autour de ce personnage?
Ben, on dirait un Don Quichotte.
Ah, c'est ça.
Et en même temps, il a une tête qui ne correspond pas du tout, parce que vraiment, on dirait plus un squelette. Donc, sa tête au grand personnage, elle y est deux fois.
Oui.
Et après, il y a deux autres têtes qui se ressemblent, mais c'est le même personnage, mais en...
Oui.
Le personnage est en noir, en fait. On dirait une tête de mort, mais elle est dessinée en noir. Et les autres, en fait, c'est laissé en blanc.
Mm.
Et il n'a pas de chapeau. Après, ça fait, on dirait plein de cultures différentes, je trouve. On dirait du Mexique dans les têtes de mort. On dirait de l'asiatique, mais je ne sais pas être plus précise, bah, dans les inscriptions. On dirait des vieux tableaux de la Renaissance, là, où on voit au loin une montagne qui donne de la perspective.
Oui, parce
qu'elle me perd complètement, cette carte.
Et c'est intéressant. C'est étonnant.
C'est Don Quichotte à qui me fait le plus penser. Je ne sais pas pourquoi.
D'accord.
Parce qu'il y a un monde à explorer. Don Quichotte, il explore un monde. C'est sa quête. Donc. Et je parle pas. Ouais. Et puis, il y a ces insectes.
Ils ont tout de même un rôle fort parce qu'ils sont... On peut les imaginer sortant, on peut les imaginer entrant.
Oui, ils ont comme un corps qui a une flèche de boussole. Ouf. Et il y en a qui pointent vers mon chevalier errant, là, et d'autres qui pointent vers l'extérieur.
C'est ça.
Mais peut-être qu'il lui indique un chemin à suivre. Hein.
C'est ça.
Ou alors peut-être que les têtes, c'est qu'il a plusieurs vies, comme dans les jeux vidéo.
Quel masque je prends aujourd'hui.
Voilà.
Ah. J'ai compris quelque chose, mais peut-être j'ai très mal interprété. Alors je vais te dire ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait des éléments éphémères. Et ce n'est pas du tout ça, si. Que les éléments éphémères, c'est précisément les insectes. Alors que le personnage que tu identifies comme Don Quichotte, il est ancré dans une histoire, dans une culture.
Ouais.
Je sais. Non, mais c'est pas grave. Hein.
Je crois pas que ce soit ça.
Moi, ça me fait penser aux fantômes. C'est un peu des petites voix qui l'aident à écrire son...
Ouais, ou qui l'aident à passer. Peut-être qu'il doit traverser quelque chose. En fait, je trouve que tout le monde fait éphémère vu que c'est un squelette. C'est peut-être une histoire de transition pour aller à l'au-delà, en fait.
Ah.
Vu que il faut que je revienne à la logique de la carte d'avant, cette même carte dans un mois, où est-ce qu'elle sera ? Et du coup, peut-être qu'il aura suivi un des insectes et qu'il sera au pied de la montagne. Peut-être qu'il cherche sa route, quoi.
Tout à fait.
Mais du coup, je reviens à Chevalier Errant. Je trouve que ça lui va bien, comme nom.
Oui, le personnage de Don Quichotte te sert de référence.
Alors qu'il y a... c'est peut-être à cause de l'épée ou... Ça me fait penser à ça, hein, mais...
Tu vois une épée, là. Tu le vois appuyé sur une épée.
Oui,
okay.
Mais c'est peut-être juste un écart entre ses jambes. Et que du coup, en fait, il lui manque des bouts de son corps. Il lui manque le genou gauche, et il lui manque les clavicules. Et il lui manque peut-être une partie de ses côtes gauches. Je ne sais pas.
Mais il tient bien, bien droit quand même.
Oui. Et il tient comme une danseuse en première position.
Ah,
la première.
Ah.
Bien. Est-ce qu'on écoute la musique du milieu?
Oui.
Qui était, tu te souviens? J'ai oublié. Mais on va l'entendre.
Yves Jamais, je crois.
Allez. On est sur Radio Campus Grenoble, dans la rue Trécloître, avec plein d'exceptions autour de nous.
matin quand je me réveille, j'ai du mal à quitter Morphée pour aller justifier la paye que mon patron peut s'octroyer. Ça n'est pas vraiment que je tienne à continuer de l'engraisser, mais aussi petite soit la mienne de paye, j'en ai besoin pour bouffer. Je fais des trous dans ma ceinture, un par jour pour mieux gérer le minimum que cette enflure se croit obligée de me céder. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y'en a qui auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirige et qui nous gouverne. Je le croise devant l'usine, dans sa belle BMW, dans sa Porsche ou bien son Alpine, suivant ce qui l'a motivé. Moi je garde mon vélo depuis qu'ils ont décidé, afin de relancer le marché de l'auto, d'interdire aux poubelles de rouler. Il a les fringues toujours impec, les mains propres et jamais tachées. Moi mes paluches je bosse avec, et mes neurones sont élimés. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y'en a qui auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirige et qui nous gouverne. Il a des potes en politique, des plantes grasses à arroser, de celles qui jamais ne lui piqueront le cœur de son chéquier. Ils ont le cumul sympathique de maire et de député, ils ont la morale cathodique et le chômage suranné. Peu importe l'ascenseur qu'ils aiment à se renvoyer, peu importe puisque l'erreur c'est qu'on est trop dans l'escalier. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y'en a qui auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirige et qui nous gouverne. Combien de temps encore va-t-on se laisser faire? Combien de temps encore sans rien faire?
Y'en a qui sont jamais dans la merde, y'en a qui n'ont jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même
Yeah. On était dans l'explication en même temps que vous, vous écoutiez une musique bon, que je réécouterai avec le podcast où je me poste mes fameuses images. Et nous allons ouvrir la numéro 65 et notre public part. Et c'est curieux parce que dans cette carte, il n'y a pas autant de public que dans la précédente, n'est-ce pas?
Non. Allez, ah, c'est marrant, elle fait... Donc, ma quatrième carte, Allez, Isabelle, c'est pas très radiophonique de citer.
Ah, c'est pas grave, si.
Donc, il y a deux punaises, ou c'est pas des punaises, là? Là, pour le
scarabée,
coup,
peut-être.
On reprend vraiment la forme carte avec en haut à gauche et en bas à droite deux insectes.
C'est ça.
Donc, des scarabées. Elle fait beaucoup plus carte à jouer. Alors, il y a une vieille dame qu'on dirait sortie d'un tableau un peu de la Renaissance. qui n'est pas très jolie, qui a un certain âge et qui porte un voile bleu au-dessus de la tête. À l'arrière, il y a trois bandes, on dirait quasi un drapeau. Il y a un orange monochrome, un rouge monochrome et un bleu en camailleux, du bleu foncé au bleu clair. Et il y a un petit angelot qui déchire en fait un petit bout du voile et du front de la vieille dame, qui, on dirait un petit angelot, ceux qui sont un peu potelés, là, qu'on ne sait jamais si c'est des garçons ou des filles dans les tableaux, qui sont toujours un peu tout nus. Et par contre, il a une tête de monstre, une tête de blaise, avec, là, pour le coup, ça fait très boche, avec une grande bouche, je sais pas, une espèce de crête. Et puis, on dirait qu'il tient quelque chose à l'oreille, peut-être pour entendre, parce qu'il est sourd ou je sais pas. Et derrière lui, il traîne un ciel de nuages, vraiment de tableaux, pareil, de la Renaissance. Ou...
Là, ça donne envie de faire une fête un peu comme ça. pour revenir à la prom. Passons. Alain, ça t'a fait rire?
Pardon ?
Ça t'a fait rire ?
Ah, oui, la carte me fait rire aujourd'hui par la lecture que tu viens d'en faire.
Ouais.
Parce que c'est une description très soignée, avec des évocations artistiques, bien posées.
Merci.
Alors que, oui, bien sûr, mais en fait, il y a, toi qui aimes la narration, il y a quelque chose tout de même qui se passe. Entre ce petit ange potelé, un peu Jérôme Bosch, j'ai eu l'impression que tu disais.
Oui, tout à fait, sa tête.
Sa tête, et qui tire le voile de cette dame qui n'a rien de gracieux, voire même peut-être inquiétante, avec son nez crochu qui tombe dans la bouche. Enfin bon.
Oui, c'est vraiment une représentation d'une...
Presque une sorcière.
D'une vieille femme pauvre ou d'une sorcière dans les tableaux...
Oui.
De je ne sais pas quelle époque, mais elle n'est pas du tout à son avantage. Et le petit angelot, on dirait même qu'il lui déchire le... Oui. Qu'il la décompose, en fait.
Oui. Il est petit, mais il a beaucoup de puissance. Et je trouve que ce que tu viens de faire dans la description, ça attire la curiosité. C'est-à-dire, si tu résumes ce que tu viens de raconter, qu'est-ce qui se passe dans cette image? Quel est l'événement qui te semble être marquant? Qu'est-ce qu'il y a de...
J'ai l'impression que c'est la fin de vie de cette dame, en fait.
Ah oui.
Il y a les insectes qui attendent, et puis l'angelot qui commence à la découper par petits bouts.
Oui,
tout simplement.
On serait peut-être dans une image anthropophage, ce que tu es en train de nous raconter. Et c'est l'humain qui mange l'humain. Bon.
Je ne le prends pas pour un humain, l'angelot. Hein.
Ah.
Et, on dirait un petit...
c'est un angelot.
Ouais, les grotesques, je ne sais pas comment on les appelait. Là.
C'est ça, oui.
Il a un physique très identifié, un enfant déjà vieux. il est... c'est pas un humain, en fait, pour moi.
Ah oui.
Et elle, on se dit qu'elle est quand même humaine.
Elle, en tout cas, elle l'a été.
Est-ce qu'elle fait un peu apparition aussi, quand même?
Elle ne fait pas méchante, mais elle fait très vieille et portant beaucoup de choses, semblant avoir porté beaucoup de choses dans sa vie, quoi.
Là, en tout cas, usée.
Et puis, elle est maigre comme un clou, je pense. Vu comme on voit ses pommettes...
Oui. Okay. Si on cherche l'intention de l'artiste, de l'auteur, qu'est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce que tu imagines?
Comme aux autres cartes, on m'a demandé c'est quoi l'histoire dans un mois. Je pense que dans un mois, la dame n'est plus sur la photo, en fait. Elle n'est plus sur cette carte. Il y aura peut-être plus d'insectes. Et puis l'angelot, peut-être qu'il sera parti ailleurs faire sa besogne, en fait. J'y vois vraiment une carte annonciatrice de mort, quoi, si on est dans le jeu du tarot.
Voilà, on ne nous l'avait pas situé encore.
Je suis perplexe parce que, étant l'auteur, je ne comprends pas.
Ah, c'est vrai?
Non, je ne comprends pas parce que pour moi, c'est...
Toi, tu mettais quoi?
Moi, je crois que c'était une farce. J'ai cru que c'était une farce entre la vieillesse et l'enfant. L'enfant pouvant devenir cruel à l'égard d'une personne faible, par exemple.
Ah oui, dans ce sens-là. Ben, en fait, je trouve que l'angelot ne fait pas enfant, en fait.
C'est ça, voilà. Mais tu l'as dit au début.
L'angelot, vraiment, ouais.
C'est ça.
Je trouve qu'il ne fait pas enfant. Après, la vieille femme, on peut vraiment la prendre aussi, effectivement, comme une marionnette. Dans les carnavals, des fois, il y a des vieilles femmes représentées, mais un peu sorcières et
tout. Oui, exactement. Et en plus, ce que tu viens de dire, c'est vrai, c'est le carnaval populaire. C'est pas...
Ça peut, c'est une interprétation que je pourrais y voir d'un carnaval populaire où on veut montrer. Mais pour moi, ça montre le délitement de la vieillesse du fait que ton gelot lui arrache le front. Là. Enfin, c'est vraiment ce que j'y vois pour le coup.
Oui, c'est beau, c'est beau. Il y a tout de même des ressemblances parce qu'on retrouve la présence du ciel. Et la présence du ciel, elle est symbolique mais importante. C'est-à-dire qu'elle n'est pas située dans un lieu clos.
Non.
On est encore dans une narration où la nature, l'extérieur, a une valeur. Bref.
Non, elle répond à plein de choses dans les autres cartes aussi, parce que la femme, elle pourrait quasi être sur le fond de la carte noir et blanc, en fait.
Oui.
Et les insectes pourraient être dans les autres tableaux, et le fond coloré bleu, on le retrouve dans ma première carte.
Oui, c'est amusant, cette constance dans la nature. Si on essaye de tisser une trame de ressemblance... Les scènes, pour l'instant, se passent... Le hasard fait que le tirage des cartes, les scènes se passent à l'extérieur.
Oui. Ah oui, toutes.
Et au niveau esthétique, puisque c'est tout de même... ta sensibilité est fortement orientée sur l'esthétique des choses. Quelle est la critique? Quel est le sentiment? Qu'est-ce que ça anime chez toi, cette esthétique?
Ouais, c'est dur ça. Mais je trouve que c'est la première carte qui fait vraiment carte de jeu.
Ah oui, qui intègre l'idée de carte à jouer.
Oui, qui fait vraiment, pour le coup, qui reprend avec les insectes en haut, en bas, ça fait vraiment carte à jouer.
C'est ça.
L'esthétique, ben, ça fait très collage par rapport aux autres.
Ah oui, c'est ça. Ah oui.
Et ceci dit, il y a encore une perspective de profondeur, parce que derrière l'angelot, il y a le ciel, il y a les nuages, et on peut toujours s'échapper.
Ah oui.
Sur trois cartes, finalement, il y a tout le temps une échappée vers l'arrière de la carte.
C'est ça, c'est ça.
Mais là, on dirait que personne n'y va, en tout cas, à l'arrière de la carte. Dans ce...
Très bien. Alors, le signe du scarabée a pour dimension de parler de l'éternité.
D'accord.
Dans la logique, des signes égyptiens.
On va. Tu veux l'heure? Tu voulais l'heure? Il est moins quart, donc on peut regarder la carte d'après.
D'accord.
Ou tu veux finir sur ce signe?
Non, je voulais juste préciser que les signes qu'on a choisis sont divers et n'ont pas les mêmes origines. La punaise, elle existe dans la symbolique qu'on attribue aux enfants. C'est bizarre, mais c'est comme ça.
Ouais.
En Égypte. La représentation du scarabée, c'est vraiment la représentation de l'éternité. Alors, c'est amusant de voir que chaque symbolique nous parle de quelque chose de précis. Et voilà, et comment avec cette carte, ça crée un contraste. Pardon.
Après, si ça représente l'éternité, en général, on met... on met pas une représentation d'une personne aussi vieille dans l'éternité, en fait.
C'est ça.
Parce que là, on...
Donc ça accentue... personne en...
ouais, ça accentue du coup le burlesque. Ouais, oui, d'accord.
J'ai compris.
Trop bien. Musique ou carte, choisissez.
Ben, je sais pas, il nous reste combien de temps?
Un quart d'heure.
Ah.
Allez, carte.
Je serais plutôt d'accord pour une carte.
Je sais. Nous sommes sur Radio Campus Grenoble dans la Cité des Interdits et on ouvre la carte numéro
74.
Allez là. Excellent.
Alors, c'est la première que je ne sais pas dans quel sens prendre.
Horizontal ou vertical?
Vertical, je crois.
D'accord.
Vertical, parce que je vais la ramener à moi. Je vois un vase à droite.
D'accord.
Du coup, c'est une carte en deux parties qui est encore très différente de toutes les autres. Donc, elle est coupée en long en deux parties. Une partie qui est en noir et blanc où on devine un personnage. Je ne sais pas si c'est un humain ou si c'est un chat ou un chien ou un... De bande dessinée un petit peu.
Oui.
Il y a encore du coup un scarabée qu'on devine.
Qui revient.
Et il y a plein de points sur sa carte et c'est comme si les points étaient un peu reliés. Donc ça, c'est le côté noir et blanc. Et à droite, en long, il y a un fond bleu.
Oui.
Un peu encamailleux. Il devient plus clair vers le bas.
Oui.
Il y a encore un scarabée dessus. Et là, je ne sais pas très bien ce que ça représente, mais comme je suis céramiste, je vais le ramener à la céramique. Moi, j'y vois un vase avec un très grand col qui s'ouvre.
C'est ça.
Et du coup, il y a un scarabée sur le col du vase. Le vase, il a plusieurs couleurs. Il est orange en bas, il est kaki un petit peu au milieu. Et puis ensuite, il y a un col qui s'ouvre, qui est dans les jaunes, violets, bleus, verts. Enfin, il est assez joli. Et... autour de ça, on retrouve la logique des points et des traits qui relient des points, qui donnent un mouvement à tout ça. On dirait que ça danse un peu, que ça bouge.
C'est ça, oui.
Et par contre, raconter une histoire, il y a le scarabée dans le côté noir et blanc et dans le côté couleur. Le personnage de gauche n'a pas l'air très content.
Ah non, pas très.
Il a l'air...
soucieux, en tout cas.
Ça fait très dessin animé, je trouve. Ça pourrait être un début de robe qui a une corolle autour du cou, avec un personnage qui est moitié chat, moitié humain. Là.
Oui.
Ça fait très bande dessinée, je trouve. Et le vase représente l'éternité, parce que la céramique, c'est ce qu'on retrouve dans les fouilles archéologiques.
Ah ouais, on s'offrait toujours des fleurs, en fait.
Exactement, je le ramène à ce que je maîtrise.
C'est joli. C'est joli, ouais.
Alors, du coup, si on regarde un peu toutes les cartes, ça fait quand même un...
Attends, si tu permets, Florie. Je voudrais juste savoir... puisque cette carte est en deux panneaux, est-ce que ces panneaux sont-ils en dialogue ou sont-ils tout simplement en représentation pour nous? Ont-ils des rapports?
Ils ont des rapports parce qu'ils ont les points et les traits entre les points.
Oui, donc ils ont quelque chose de commun.
Donc ils ont ces espèces de chemin entre les points, mais à gauche, ça fait beaucoup plus tourmenté qu'à droite, où c'est beaucoup plus dansant.
Oui.
Ils ont le scarabée en commun,
oui,
qui est à peu près de la même taille, un peu plus petit sur le, oui, le côté noir.
Oui.
Et puis d'un côté, c'est vraiment le monde en noir et blanc, et de l'autre côté, c'est un monde avec des belles couleurs, quoi. C'est beaucoup plus gai à droite,
oui,
que ça ne l'est à gauche.
Ah oui. C'est la première fois que j'entends de ta part quelque chose qui a à voir avec le sentiment de la personne. Tu viens de dire gay.
Oui.
Jusqu'alors, je n'avais pas entendu le mot gay ou autre sentiment de cet ordre.
Si, la vieille dame, j'avais dit qu'elle était triste.
Ah, pardon.
Il me semble.
Ah, pardon. Oui, donc deux fois. D'accord. Merci. C'est mon inattention, excuse-moi.
Non, non.
Non, mais ça m'intéresse de savoir, parce qu'on arrive au moment où il faut qu'on travaille à la compréhension d'une utopie éventuelle.
Aïe.
Alors, oui. C'est toi qui as les cartes en main. Oui. Nous, on a l'écoute et le discours, et à la fois la narration des cartes, parce qu'elles ont tout de même un développement intéressant. Et voilà, on va essayer maintenant. C'est ce que proposait Florie il y a 2 secondes, que j'ai coupé, je m'en excuse.
Oui, c'est bien de lire. Donc moi, ce que je voyais, c'est que tu avais commencé par la punaise, tu étais passé par l'abeille, les mantes religieuses, le scarabée, donc c'est un peu en sans faute dans l'acceptation de la ligne du temps. C'est tout ce que je vois. Mais voilà.
D'accord.
Je suis, ça peut aller brièvement.
L'ordre est donné par les numéros des cartes.
L'ordre, c'est celui que tu veux installer dans la quête qu'on a, qu'on s'est posée, puisque c'est le jeu, d'identifier une utopie.
D'accord. Mais les scarabées sont forcément vers la fin et les punaises au début.
Ben, comme on a lu, ça fait... Mais en fait, tu me racontes
pas
ce que tu
fais.
C'est vrai qu'il y a eu un déroulement progressif, évidemment. Mm. Mais si tu avais la tentation de passer par ailleurs, pourquoi pas ?
C'est...
Surtout, que je trouve ce qui est beau dans la manière de ta description, c'est la liberté que tu as exprimée dans l'interprétation. Donc on peut se dire, bah oui, mais bien sûr qu'on peut le lire dans tous les sens, ce jeu. Pourvu que cette lecture, elle amène tout de même à sentir quelque chose qui existe.
À moi, je ne sais pas quoi dire. Moi, je le mettrais là en fait, mon chevalier errant. Parce que pour moi, c'est
là, c'est-à-dire à droite, tout au fond.
Non. Quand on est passé de vie à trépas, pour moi, lui, il est de l'autre côté en fait.
D'accord. Pourquoi ?
Bah, dans une histoire linéaire.
Ah d'accord.
Mais c'est peut-être pas du tout ça hein, qui. Pardon.
Et nous réfléchissons.
Je peux te donner ma carte préférée.
Ouais, quelle était ?
Vas-y.
La première.
La première qui...
Mais parce qu'elle est rigolote, en fait.
Qui raconte...
Qu'elle est rigolote et qu'elle est festive, finalement. Mmh. Malgré qu'il y ait des fantômes.
Oui, c'est Halloween. Hein, pour nos auditeurs, il s'agit de la carte qui présente 2 personnages.
Oui, dans le micro, c'est bien.
Qui sont contrastés par... leur physionomie, leur taille, etc., dans un univers romanesque à sa manière, hein, si je peux dire.
Ouais. Est-ce que... Je ne sais pas, alors du coup, tu sens que tu aimes te balader dans quel univers ? Est-ce que... quelque chose qui serait...
Je sèche un peu sur...
Y a pas de...
Comment faire le lien, en fait, sur... En même temps, il y a plein de choses...
Ben moi, ce qui m'a tout de même formidablement enthousiasmé, c'est que l'interprétation fait état avec force... Du désir de l'imaginaire. Que au-delà de la description, j'ai entendu souvent qu'il y avait plus que ce qui pouvait se dire, ce qui me fait penser à quelque chose qui est justement plus difficile à identifier parce que non dit et pourtant raconté. Raconté parce que à chaque carte, tu prends appui sur quelque chose qui se dit. Et puis ça recommence, ça se dit ici, et ça se dit là, et ça se dit encore là. Et c'est cette diversité de l'histoire, de l'histoire que tu crées, parce que c'est bien toi qui es l'auteur de ces créations. C'est pas, on t'a pas forcé à dire quoi que ce soit. C'est...
Moi, j'ai pas compris toute l'histoire de Don Quichotte à la fin, mais ça, est-ce que c'est tout ce que tu aimerais qu'il se passe après ?
Ben, dans cette image, ouais, j'ai l'impression que c'est le après, ça, mais c'est peut-être plus parce que j'ai réfléchi en mode tarot et que ça lit l'avenir et que ça, c'est un autre monde. Mmh. Pour moi, il est dans un autre monde, lui, alors que ceux-là, ils sont rattachés à... Je la trouve vraiment à part, en fait.
C'est peut-être l'absence de couleur totale. Oui,
probablement. Et puis qu'il a une carte beaucoup plus grande à explorer. Mmh. Il a vraiment tout un monde à explorer sur sa carte. Après, une utopie, je ne sais pas trop comment...
Ah, moi, t'écouter, je la vois... Je la vois se dessiner avec beaucoup de force.
Après, moi, j'aime bien faire des liens quand je vois des choses avec l'histoire, avec...
C'est ça.
Puis voir du beau partout, puis...
C'est ça.
Enfin, mais pour revenir à Ouverture Exceptionnelle, là, ils ont mis des petits tableaux sur des petits tags ou des petits défauts dans le mur, comme si c'était des tableaux. Donc, ils ont mis des petits cadres et tout ça. C'est rien du tout, mais c'est... Enfin...
C'est super.
C'est super chouette, en fait.
Oui, oui.
De pointer du doigt.
Je trouve que ton désir d'imaginaire est magnifique.
D'accord.
C'est pourquoi merci. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très, très, très profond et qui te ressemble. C'est une utopie de l'imaginaire. Comme si l'imaginaire était le moteur de la création et que c'était lui qui te faisait parler. Ce n'est pas un autre qui a parlé. À chaque découverte de carte, c'est précisément toi qui t'investis dans le narratif de la carte. Et je trouve que c'est très beau, cette utopie de l'imaginaire, parce que c'est sans frontières. C'est quelque chose que tu portes comme un idéal secret.
Waouh.
Ouais. Ah ouais.
Ah ben...
C'est ça, l'utopie. C'est un c'est idéal vrai. Secret.
Ouais.
Et c'est probablement très en rapport avec ton métier artistique aussi.
Bah, en tout cas, que je ne sais pas si j'attends ça, mais c'est une quête que je voudrais bien atteindre. Ouais.
Ouais, c'est une quête que tu as en permanence, je pense. Elle est très vivante. Et c'est même, je trouve magnifique, que c'est, elle n'est jamais désarçonnée, quoi que soit la représentation de la carte. Elle peut être difficile, elle peut être, mais non, elle a une réalité vivante et tu peux l'explorer, présent, passé, futur. Tu peux pas, tu peux pas l'arrêter à là où tu la regardes. Mm. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est cette capacité d'imaginaire, ça te projette vraiment dans l'utopie, ton utopie.
Mais ça c'est l'art en général en fait.
Peut-être.
Quand on regarde une œuvre d'art, c'est ce qu'elle te fait et où elle t'emmène en fait.
Qui... Ah oui, je suis d'accord.
Mm. Ouais, du coup, c'est ça, mon utopie.
Ok.
Bien ben, mieux si dit avec d'accord. Les mots d'Alain. Mais...
Non, mais si ça te ressemble, c'est intéressant. Si ça te paraît plaqué, il faut le contredire.
Ah ben non, non. Enfin, je pense que j'ai beaucoup d'imagination. Ouais. J'aime bien chercher du beau dans tout.
C'est ça, c'est ça. Il y a une quête du beau, mais ce beau, il est construit sur l'hypothèse de la transformation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un état fixe de ce que tu regardes.
Non.
Et quand tu nous parles de la dernière qui est ta préférée, c'est que justement, celle-ci, par même ses représentations maladroites presque, ou en tout cas pas conformes, ça t'évoque beaucoup de possibles.
Bon. Ok, super. Hop, il est 14h. C'est que la cité est en train de fermer ses portes tout doucement. Et on va écouter la fin de la chanson qui était venue au début pour se dire à la semaine prochaine. Merci beaucoup Isabelle.
Eh ben merci pour l'invitation. Ouais. Drôle d'exercice, mais très chouette à faire.
Trop bien. Merci Alain. Merci Arnaud. Merci la radio. Et merci à Ouverture Exceptionnelle.
Merci d'être venu à notre émission.
Ciao.
Tu sais que là-haut, la lumière.